Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale.
Ça ira, je vous le dis mesdames et messieurs, il est midi tout de suite avec le journal de l'info bien avant tout le monde, présenté par Wallis Guest qui nous donne les titres tout de suite. Bonjour Wallis.
Bonjour Benny et bonjour à tous. Remaniement ministériel ce matin, le nom du nouveau vice-président est connu, il s'agit de Terry Alpha. Les détails du remaniement bien évidemment dans ce journal. Peu sollicité en début de crise sanitaire, le CHPF prend charge depuis le début de la semaine des patients Covid+. Vous écouterez le docteur Philippe Dupire, président de la commission médicale d'État. Et puis enfin, la Légion d'honneur pour le dernier survivant tahitien du bataillon du Pacifique.
Remaniement avec Thierry Alpha, vice-président, et Yvonique Raffin, ministre de l'économie.
Ministre des Affaires foncières, Thierry Alpha a déjà occupé le poste de vice-président du pays en mars 2011 dans la gouvernance de Gaston Tong-Song. Thierry Alpha est le seul maire autre qu'Edouard Fritsch à siéger au gouvernement. Il a occupé son premier poste de ministre en 2004. Je vous propose d'écouter justement la réaction du nouveau vice-président au micro de Caroline Perdry.
Nous devons rester dans la continuité de ce qui a été annoncé, le plan de relance 2020-2021. Mais maintenant, il faut le rendre opérationnel. Donc, en résumé, simplifions nos procédures, réveillons tous ces projets pour qu'ils se concrétisent rapidement. Et puis, bien sûr, le gouvernement, tel qu'il a été remanié, fera bloc derrière le président pour non seulement supporter les plus fragiles, mais surtout aussi réveiller et créer cette nouvelle dynamique dans notre pays pour que nous restions debout.
Concernant Yvonique Raffin, il remplace ainsi Tevaro Fritsch à l'économie et aux finances et récupère l'énergie jusqu'ici dévolue à Théa à Frogier, un domaine qui lui est très familier puisque cet ingénieur de formation a occupé plusieurs postes chez EDT au fil des années. Je rappelle qu'il est également directeur de la Caisse de prévoyance sociale depuis mai 2017. Écoutez sa réaction.
J'aborde en fait cette nouvelle fonction avec sérénité et confiance. Confiance parce que je suis certain que l'ensemble des partenaires, qu'ils soient sociaux, du monde de l'entreprise, nous ferons tous front pour gagner un petit peu cette bataille qui nous attend à redresser notre économie. Et je suis très 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 confiant.
Qu'ont également présent durant cette assemblée, le président du pays, Edouard Fritsch, a expliqué la réorientation du pays.
On peut comprendre que c'est malvenu, hein, compte tenu du travail qui nous attend. Mais discuter un peu avec mes ministres, je crois qu'il était indispensable que nous montrions l'exemple, parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, les choses risquent de ne pas aller dans le bon sens dans les jours à venir, que ça s'aggrave peut-être au niveau économique. Donc on va vraisemblablement s'orienter vers une politique drastique d'économie et de coupe au niveau du budget du pays. Ça ne peut se faire que si nous montrons l'exemple. Comme le président Gaston Tong-Song a annoncé l'effort qui a été fait aussi par l'Assemblée de Polynésie, le gouvernement devait faire cet effort. Donc voilà, on a réduit à 10.
Et puis enfin, concernant les autres ministères, Jean-Christophe Bouissou conserve le ministre de Logement et de l'Aménagement, Nicole Bouteau conserve le Tourisme et le Travail, récupère les transports aériens internationaux, et Remoana Mamatouyaoutapou conserve la Culture et l'Environnement, et récupère la Jeunesse et les Sports. Le ministre Jacques Rénal conserve son poste au sein de la Santé, Christelle Hart, elle conserve l'Éducation et récupère la Modernisation de l'Administration et le Numérique, René Temeharo conserve l'Équipement et récupère les grands projets auparavant alors confié à Tevaro Fritsch. La grande perdante de ce remaniement a été Théa Frogier, ministre de la Modernisation de l'Administration en charge de l'énergie et du numérique, mais elle n'a pas été reconduite.
À l'hôpital Taonnet, le défi du Covid-19 ne fait pas oublier les autres maladies.
Peu sollicité en début de crise sanitaire, le centre hospitalier de Polynésie française prend en charge depuis le début de la semaine une quinzaine de patients Covid+. Elle se tient prêt, si nécessaire, à en accueillir davantage. Les connaissances sur la prise en charge du coronavirus ont effectivement évolué, comme les mesures de prévention des autorités. Par ailleurs, les citoyens sont de plus en plus au courant des mesures barrières, autant d'éléments qui permettront donc de ralentir l'épidémie. Je vous propose d'écouter le docteur Philippe Dupire, président de la commission médicale d'établissement.
On a maintenant de meilleures connaissances sur la façon dont il faut prendre en charge les patients. Et en même temps, les citoyens sont bien au courant des mesures barrières. Il y a du dépistage qui est fait, donc on manage mieux les cas. Et tout ça amène en fait à un ralentissement de l'épidémie. Donc je pense que cette épidémie restera sur un fonctionnement avec une cinétique, enfin une vitesse de croissance qui sera relativement faible. Mais par contre, je pense qu'elle va durer dans le temps. Cela dit, comme on est l'hôpital opérateur Covid, on est tenu d'anticiper pour que si par hasard un cluster arrive ou une grande quantité de patients sont contaminés d'un coup, on puisse faire face à l'afflux. Et donc, on est obligé de vider des lits à l'avance pour pouvoir faire face à cet afflux.
Et justement, dans les lits des services spécialisés, les jeunes malades liés au cluster festif de début août ont laissé la place à des personnes beaucoup plus âgées. Parmi les facteurs de risque les plus élevés, bien sûr, l'obésité.
Il y avait plutôt au départ des gens plus du milieu jeune en rapport avec des clusters plutôt festifs. Et puis, petit à petit, l'épidémie rentre dans la population. Et donc, on a des patients, notamment ceux qui sont en réanimation, qui sont plus des patients à facteurs de risque. Et l'un des facteurs de risque qui nous paraît le plus lié à la prise en charge réanimatoire, c'est le surpoids.
En 2019, le centre hospitalier avait connu près de 150 000 hospitalisations et plus de 15 000 interventions, tout bloc confondu. La Covid-19 ne doit donc pas faire passer au second plan cette activité vitale pour le pays.
On est très très prudent parce que finalement, les symptômes qui tournent autour du Covid sont des symptômes pas très spécifiques. Hein. C'est de la fièvre, c'est de la toux, parfois quelques diarrhées, quelques signes plus ou moins spécifiques comme la perte du goût et de l'odorat, ça a été cité, mais d'autres virus peuvent parfaitement y correspondre. Et puis surtout, il y a des maladies bactériennes, hein, la leptospirose. C'est aussi de la fièvre, c'est aussi des syndromes qui correspondent à tout ça. Donc on est très prudent sur les autres viroses, notamment on surveille de très près la grippe parce qu'on sait que la période y est favorable dans quelques semaines. L'idée surtout c'est qu'on fasse attention aux patients Covid mais aussi aux patients qui ne le sont pas.
À noter que l'hôpital est équipé pour pratiquer à la fois des tests de dépistage du coronavirus et des tests PCR pour la grippe, maladie qui fait des morts chaque épidémie.
Les restrictions sur les ventes d'alcool sont des gesticulations politiques, dit l'avocat du groupe Van.
Après avoir interdit la vente d'alcool le 23 mars dernier, trois jours après l'entrée en vigueur du confinement, le gouvernement l'avait rétabli le 27 mai en conservant toutefois l'interdiction de la vente d'alcool réfrigéré et de la vente après 18 heures. C'est ce régime d'exception qu'attaquent les magasins Easy Market, Prince Hinoï et Champion Rayate. Toutes deux filiales du groupe Van pour Maître Millet et qui avait fait annuler la mesure de couvre-feu. Ces restrictions restantes ont un effet pervers.
Les conséquences de cette réglementation, de ces restrictions, sont plutôt finalement caractérisées par un effet pervers. C'est qu'on retrouve une augmentation de la consommation d'alcool fort de 35% depuis début juin. Donc il y a un report aujourd'hui de la bière aux alcools forts et manifestement en termes de santé publique, c'est un effet très défavorable qui justifierait à lui seul le retrait de cette mesure.
Maître Millet estime que la Polynésie française a pris cet arrêté complètement à l'aveugle, justement pour satisfaire la volonté des maires.
La Polynésie française a pris cet arrêté complètement à l'aveugle pour satisfaire la volonté des maires. Et ça, c'est le président du pays qui l'affirme dans un courrier. On comprend en réalité qu'il n'y a aucune considération de santé publique derrière cette réglementation. Simplement une opération séduction avant les sénatoriales. Avant cela, il y avait le couvre-feu qui était souhaité par les maires. Là, aujourd'hui, c'est les restrictions sur l'alcool. Et je crois que c'est ça le plus problématique. Il y a également le fait que la Polynésie, qui indique que la lutte contre l'abus d'alcool est une priorité sanitaire, ne dispose en réalité d'aucun chiffre, d'aucune étude interne, locale, sur la consommation d'alcool, sur les problèmes liés à l'alcool et sur le bilan des mesures qui ont été prises par la Polynésie et par les communes depuis 50 ans.
Enfin, Maître Millet évoque le caractère discriminatoire de ces mesures, alors qu'en juin, les magasins spécialisés ont été autorisés à vendre de l'alcool réfrigéré. Le tribunal administratif rendra son délibéré dans la journée.
La Légion d'honneur pour le dernier survivant tahitien du bataillon du Pacifique.
81 ans après s'être engagé aux côtés de la France libre, Harry Wong Kim a reçu aujourd'hui la Légion d'honneur en Normandie. La décoration lui a été remise par le fils de celui qui fut le commandant du bataillon. En l'occurrence Félix Broche. La cérémonie de remise de cette décoration a été initialement prévue le 5 avril dernier aux Invalides, mais avait dû être repoussée en raison de la crise sanitaire. Je rappelle que de 1942 à 1944, Harry Wong Kim participa à la prestigieuse campagne de guerre de ce mythique bataillon des guitaristes qui fut partie prenante en temps de bataille héroïque, débarquement de Provence ou encore la bataille d'Italie notamment. Je rappelle qu'il était l'ultime survivant tahitien du bataillon. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.